quelqu'un de persévérant? Êtes-vous quelqu'un qui persévère? Est-ce que vous avez, au contraire, une attitude plutôt, une tendance plutôt à vous relâcher, une tendance à laisser tomber facilement quand cela devient trop dur? Ou bien est-ce que vous êtes quelqu'un d'endurant, de persévérant, qui continue, qui ne s'arrête pas? Si vous êtes quelqu'un qui est peu persévérant, ce message est pour vous ce matin et pour moi. Il y a un élément clé de la vie chrétienne, c'est l'endurance. Il y a un certain nombre, comme l'a dit Jésus, qui reçoivent la semence de la parole de Dieu avec joie, et puis viennent les soucis, les attaques, les problèmes, et là, leur cœur n'est pas attaché vraiment au Seigneur et ils laissent tomber. Mais la Bible nous encourage à de multiples reprises à persévérer dans la foi et avec le Seigneur. J'aimerais qu'on regarde ces versets de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, que je vais lire maintenant, Hébreux 12, 1 à 5. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et si vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils, « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. » On apprend dans ce passage que le chrétien est dans une course. Il dit, verset 1, « Courons avec persévérance dans la carrière. » Le mot « carrière », là, est du vieux français dans nos Bibles second. Le mot, c'est plutôt dans le stade, hein, dans l'arène. Et Paul, là, pense aux Jeux olympiques qui avaient cours déjà à son époque. Et apparemment, l'apôtre Paul aimait bien les images avec le sport. Il trouvait dans le sport beaucoup d'illustrations de la vie chrétienne. Alors il dit, nous voilà, eh bien nous devons entrer dans une course. Le chrétien n'est pas un spectateur dans les gradins, c'est un coureur sur la piste. Et là, il y a déjà beaucoup de chrétiens qui sont uniquement spectateurs. Ils viennent à l'église en spectateurs, ils repartent en spectateurs, et ils vivent la vie chrétienne en spectateurs, c'est-à-dire ils ne participent pas, ils ne vivent pas la vie chrétienne, ils ne servent pas le Seigneur. Nous sommes habitués, hein, nous sommes des spectateurs assidus, n'est-ce pas? Il y a le cinéma, la télévision, l'ordinateur, les vidéos et j'en passe. Le spectateur, par définition, il regarde et il ne fait rien. Il subit, hein, il gobe. Tandis que l'acteur, le coureur, là, il participe, il est dans la course. Et Dieu veut qu'on entre dans le stade et qu'on commence à courir. Courir, ça veut dire quoi dans ce passage? Bien sûr, c'est une image. Ça veut dire faire la volonté de Dieu. La course, c'est faire la volonté de Dieu pour notre vie. Parce que Dieu a un plan pour notre vie, pour votre vie. Et Dieu ne veut pas qu'on se promène dans la vie à l'aventure, hein, qu'on soit comme ça, comme on se promène dans les forêts. Tiens, on prend à droite ou à gauche? Bon, on va prendre à gauche. Non, la vie chrétienne a un but. Il y a un chemin, la voie étroite dont a parlé Jésus. Hein? Le petit chemin étroit. On n'y va pas comme ça, à l'aventure, en disant, tiens, je vais à droite, à gauche, au milieu. Non, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Où est-ce que je dois aller? Et chaque jour peut compter, peut avoir un but et un sens. Courir, là, ça ne veut pas forcément dire se précipiter. Nous, quand on entend parler de faire une course, on pense à se dépêcher. Mais vous savez qu'il y a des courses de marche. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Mais la marche est un sport, une discipline sportive, et il y a des gens qui font des courses de marche. Une course, c'est quoi en fait? Une course, c'est qu'il y a un départ et une arrivée, principalement. C'est ça qui fait une course. Et nous, dans la vie chrétienne, on a un départ. C'est quoi le départ dans notre vie chrétienne? La conversion, la nouvelle naissance. Quand on se tourne vers le Seigneur, ce n'est pas le baptême quand on est bébé, par exemple. Hein. Ce n'est pas ça le départ. C'est quand soi-même, on prend la décision de se repentir, de venir à Christ, et que Dieu nous donne son esprit et qu'on naît de nouveau, la nouvelle naissance. Ça, c'est le départ de la vie chrétienne. Et l'arrivée, c'est la mort, mais la mort n'étant qu'un passage. Hein. La résurrection et la rencontre avec le Seigneur pour l'éternité. Voilà notre arrivée. Et entre les deux, il faut courir, c'est-à-dire il y a un chemin. Je ne sais pas si vous aimez un peu regarder la course ou faire de la course, mais dans les stades, les coureurs ne font pas n'importe quoi. Ils ne traversent pas au milieu, ils ne changent même pas de ligne, ils ont chacun leur ligne. Ils doivent rester dans leur ligne. Et nous, c'est pareil. On a la volonté de Dieu, on a le plan de Dieu, on a la Bible qui nous dit, voilà, le départ c'est là, l'arrivée c'est là-bas, et entre-temps, le Seigneur va te conduire sur ta ligne. Ma ligne n'est pas votre ligne n'est pas ma ligne. On n'a pas à se comparer les uns aux autres. Et là, il y a une différence entre la vie chrétienne, la course chrétienne et la course dans les stades. Nous ne sommes pas en compétition. Ce n'est pas celui qui sera le plus spirituel ou le plus glorieux. Au contraire, nous devons nous soutenir les uns les autres. Et là, ça ressemble plus aux Jeux olympiques des handicapés. Hein, les paralympiques. Quand j'avais vu la course, le sprint des handicapés mentaux, ça m'a donné une leçon sur ce qu'est la vie chrétienne. Vous aviez ces handicapés mentaux qui, non seulement étaient handicapés mentaux, mais en plus avaient du mal à courir. Et donc, ils courent tant bien que mal, ils démarrent au coup de pistolet, et puis au milieu, il y en a un qui trébuche et il tombe, et il y en a un autre qui tombe derrière. Et que font les autres, d'après vous? Ils s'arrêtent et ils vont les aider à se relever. Vous avez déjà vu ça, vous, dans les courses non paralympiques? Mais ça, c'est la vie chrétienne. On ne cherche pas à être le premier à mettre tout le monde derrière. Au contraire, on cherche à mettre tout le monde ensemble et à soutenir les plus faibles dans l'Église, à s'encourager les uns les autres. C'est une course de fond, la vie chrétienne. Il y a du chemin, il y a des kilomètres. Il faut tenir la distance. Et on a besoin les uns des autres pour ça. Mais avant de courir, il faut d'abord s'alléger. Ici, il dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Qu'est-ce que vous diriez d'un coureur de sprint qui se présente sur la ligne avec des belles chaussures de ski? Vous avez déjà porté des chaussures de ski? Déjà, on n'arrive pas à marcher, alors faire un sprint, n'en parlons pas. On dirait, mais il est totalement idiot. Qu'est-ce que vous diriez d'un nageur de compétition hein, qui arrive avec son ancre attachée à sa cheville? Allez, on y va! Il n'irait pas très loin, le pauvre. Hein. Il irait au fond, mais pas au bout. Eh bien, c'est la même façon pour le chrétien qui commence la course avec des ancres et des poids et des chaussures de ski. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Qu'est-ce qu'il y a comme poids? Ben, il y a les fardeaux. Il parle des fardeaux. Qu'est-ce que c'est ces fardeaux? Le mot là, en grec, veut dire ce qui nous encombre, ce qui est volumineux, ce qui prend toute la place. Qu'est-ce qui prend la place dans notre vie, la place de Dieu qui nous empêche de courir librement? Ben, il y a les idoles d'abord. La Bible dit, hein, gardez-vous des idoles. Alors bien sûr, aujourd'hui, on dit, mais c'est fini les idoles, on n'adore plus hein, des statues. Bon, d'abord, il y a un certain nombre de chrétiens de l'Église catholique qui vénèrent les statues. Donc ça existe encore. Mais il y a des idoles immatérielles, des choses qui prennent la place dans notre cœur et qui remplacent Dieu. Ça peut être l'argent. Ça peut être le plaisir, le loisir, la nourriture, les vacances, la voiture, la musique. Il y a mille choses possibles qui peuvent prendre la place du Seigneur. Et le Seigneur veut avoir la première place. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'est pas la première place, on est encombré On ne peut pas avoir deux dieux, trois dieux dans sa vie. Ce n'est pas possible. Le Seigneur Jésus a dit, vous ne pouvez adorer Dieu et Mammon. Et Mammon, c'était, pour les Juifs, hein, ils savaient ce que ça voulait dire, c'était le dieu de l'argent. On ne peut pas adorer Dieu et l'argent. En fait, qu'est-ce qui se passe quand on a les deux? L'argent passe en premier. Le Seigneur veut qu'on se débarrasse de nos idoles. Et ce n'est pas toujours facile parce que nos idoles, nous les aimons beaucoup. Bien sûr, les idoles des autres, on dit « Oh là là, c'est de l'idolâtrie, c'est scandaleux !» Mais les nôtres, nos petites statues invisibles que nous avons hein, dans notre chambre, partout, nos propres idoles, nous les aimons bien. Et le Seigneur nous appelle à les détruire. Hein. Souvenez-vous les histoires de l'Ancien Testament. Gédéon, hein, il y avait une idole dans la maison de son père. C'était une statue hein, littérale, hein, pour le coup. Et le Seigneur appelle Gédéon à délivrer Israël, mais dit d'abord, il faut faire le ménage. Alors Gédéon arrive dans la maison de son propre père et il casse la statue, l'idole. Je pense que son père était extrêmement fâché et tout le monde était fâché parce que les idoles étaient craintes. On disait, mais c'est grâce à l'idole qu'on a la bonne moisson à la fin de l'été. C'est grâce à l'idole qu'on a la bonne météo, qu'on n'a pas de maladie. Détruire l'idole, ça voulait dire amener des cataclysmes sur la ville, sur la famille. Mais c'est une fausse foi, c'est fou ça. Il n'y a qu'un seul qui peut nous protéger, nous préserver, c'est le Dieu de la Bible, le Dieu vivant. Un autre fardeau, ça peut être par exemple une dette. Nous sommes en dette financière par exemple. Ou alors nous devons quelque chose à un chrétien, nous ne lui avons pas rendu. Ça peut être un fardeau, quelque chose qui nous pèse. Ou ça peut être aussi une démarche qu'on devrait faire et qu'on repousse. Et du coup, ça pèse sur notre conscience, là, au fond, tu aurais dû faire cette démarche. Tu aurais dû aller voir ce parent, visiter cette personne. Ça peut être chercher un travail. Le Seigneur veut qu'on se débarrasse des fardeaux, qu'on fasse tout ce qu'il faut pour être libre. Et puis ça peut être aussi une mauvaise habitude, une obsession, quelque chose qui appartient même à notre fonctionnement de vie maintenant et on a du mal à s'en débarrasser, c'est un fardeau. Chaque fois qu'on veut servir le Seigneur, il y a cette chose qui revient. Vous savez, il y a des personnes qui ont des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Et lorsqu'ils ont ces TOC, ça les empêche de vivre. Je me souviens de ce frère, hein, qui, un chrétien, qui me racontait qu'il lui arrivait d'être à son bureau, dans sa chambre, et il essayait de s'occuper de ses factures, hein, de faire les chèques et de mettre dans les enveloppes. Et il regardait la facture et il s'attardait sur un détail, un chiffre, une date, un mot, une lettre, sur le papier. Et il dit « Je pouvais rester presque une heure à regarder la facture ». Et ne rien faire d'autre. C'est-à-dire, il n'arrivait pas à écrire de chèque, il ne faisait rien d'autre, il était obsédé par ce bout de papier. C'était vraiment grave. Hein. Il ne pouvait pas sortir sans faire vérifier trois fois qu'il avait mis le cadenas correctement, qu'il avait éteint le gaz ou l'électricité, ou je ne sais pas. C'est terrible, c'est un esclavage horrible, hein, les TOC. Mais on peut être délivré, ce frère a été délivré par la puissance du Seigneur, de la grâce de Dieu. Mais d'abord, il a dû dire « je veux m'en débarrasser hein. ». Parce qu'on peut s'habituer, même quelqu'un qui a des TOC, nous, ça nous paraît horrible, hein, mais lui, il avait une pension parce qu'il était considéré comme handicapé. Et donc, il n'avait pas besoin de travailler. Bon, il ne touchait pas grand-chose, bien sûr, hein, ce n'était pas une vie facile, mais il pouvait rester toute la vie, jusqu'à la fin de ses jours dans sa chambre, à ne rien faire. L'État lui donnait de quoi manger et se loger. Mais il y a un moment, il a dit, mais ça, c'est le péché, c'est vraiment une idole, c'est quelque chose que je ne dois pas accepter. Et il s'est battu par la foi et il a commencé à chercher un travail. Et à la Sécurité sociale, ils ont dit, si vous trouvez même un petit boulot, on vous coupe vos allocs. Ça, c'est bien pour encourager les gens à travailler. Mais il a persévéré par la foi. Et puis, il a été aidé par d'autres personnes et puis il s'en est sorti. Il a un travail depuis des années. Et il ne reste plus des heures à contempler des choses inutiles. On peut avoir des mini-tocs aussi, hein, si on peut dire. des choses qui nous empêchent de servir le Seigneur, de prier, de sortir, aller travailler, hein, ou d'aider, d'être attentif envers son conjoint, sa famille. Je ne sais pas, il y a plein de choses, des fardeaux, il faut les enlever. Il faut dire, Seigneur, maintenant, je vais être libre de te servir, de courir. Il peut y avoir la peur aussi. Ça, c'est un fardeau terrible, d'avoir peur de l'échec, peur de s'engager, peur d'échouer. Beaucoup de gens hein, ont des craintes, et c'est un fardeau la crainte. Ça vous empêche, ça vous alourdit énormément. Je ne sais pas si je vais le faire, si je vais y aller. Et le Seigneur dit, vas-y, ne crains pas, je suis avec toi. Enlève ce fardeau de la peur. Oui, mais comment on fait pour enlever le fardeau de la peur? Eh bien, on obéit à son commandement. Ne crains pas, crois seulement. On obéit. Seigneur, je ne vais pas craindre, je vais te croire, je vais te faire confiance, je vais te suivre. Comme les brebis, vous savez, qui traversent des chemins périlleux, des précipices. Hein? Les brebis sont craintives par nature. Eh bien, comment est-ce qu'elles arrivent à traverser ces précipices? Lorsque le berger passe devant. Elles le suivent et elles ne regardent que les pieds du berger. Et elles écoutent sa voix. Et là, elles passent les ponts hein, les plus fragiles et les précipices les plus effrayants. Et nous sommes les brebis du Seigneur, et nous aussi, si on suit le Seigneur, il va nous faire passer les moments les plus difficiles. Bien sûr, si vous commencez à vous pencher sur le précipice, à dire « Oh là 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 là, si je tombe là, mais c'est… » Alors là, évidemment, là, vous encouragez votre propre peur. Hein? Il ne faut pas regarder le précipice, d'ailleurs, c'est un conseil pour tous les cas. Regardez devant. À part les fardeaux, il y a aussi le péché. Hein. Le péché nous environne, là, nous enveloppe. Hein. Le mot, là, ça veut dire vraiment se met autour de nos pieds et nous fait trébucher. Une sorte de filet, là, dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser et qui vous empêche de courir. On ne peut pas avancer dans la foi, servir Dieu et vivre dans le péché en même temps. Ce n'est pas possible. Quelquefois, on a cette illusion, on se dit « Oh, je pense que je peux vivre raisonnablement dans le péché et être un bon chrétien et servir le Seigneur et être béni et avoir des exaucements à mes prières. » Évidemment, il y a la grâce de Dieu, sa miséricorde, qui parfois nous bénit, souvent même, alors que nous n'avons pas fait d'efforts ni été obéissants. Mais il n'y aura jamais la bénédiction avec le péché. Ce n'est pas possible. Jamais la bénédiction avec la désobéissance et la rébellion. Il faut remettre le péché au Seigneur. Et ce qui est merveilleux, c'est que notre Seigneur Jésus est mort pour nous ôter le péché, pour nous purifier du péché. On n'est pas obligé de rester dans le péché. On peut, là encore, abandonner tout ça au pied de la croix. Dire, Seigneur, je veux être libre. Je veux courir dans la course. C'est tellement agréable d'être léger et libre pour courir. C'est tellement dur. Quand j'avais fait le service militaire, on avait les courses commando, hein, avec les chaussures qui pesaient 1 kg chacune, le treillis, le casque lourd qui pesait 2 ou 3 kg sur la tête, et le sac à dos de 15 kg. Et on nous disait, maintenant vous allez courir 10 km. Alors, dans votre pensée, vous dites, non, non, je ne vais pas courir 10 km. Mais vous ne le dites pas parce que celui qui vous donne l'ordre n'apprécierait pas vos commentaires. Alors vous partez, il fait chaud et vous avez mal partout, au pied, au dos, la tête. Vous avez le casque qui vous cogne en courant. Mais quand vous arrivez au bout, vous dites, waouh, c'est incroyable, j'ai réussi à faire mes 10 km. Mais franchement, quand vous enlevez tout ça et que vous allez faire votre jogging en short et en t-shirt et en tennis, vous avez l'impression de voler après. Mais c'est la même chose dans la vie chrétienne. Essayez, hein, essayez vraiment de vous débarrasser du péché et vous verrez combien c'est merveilleux d'être libre. Combien c'est merveilleux d'être débarrassé. Et Satan, hein, notre ennemi, nous susurre, oh là là, non, non, si tu vas trop loin, si tu es trop pur, tu verras, ça va être... horrible, ta vie sera vraiment réduite. Pas du tout. Plus on est libre, plus notre vie est abondante. Plus on est empêtré dans le péché, et plus notre vie est terne, maussade et nulle. Parce que le péché nous empêche de glorifier le Seigneur et empêche le Seigneur de nous bénir. Nous avons, pour nous encourager, lorsque nous sommes un peu plus allégés, la nuée de témoins. Il dit, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. De qui parle-t-il? Il parle de tous ces héros de la foi du chapitre précédent, Hébreux 11. Il avait commencé avec Abel, etc., Abraham, Moïse, etc., et tous ces héros, ces hommes et ces femmes qui ont servi le Seigneur. Et c'est vrai que la course chrétienne est une course de relais. Ces témoins nous passent le témoin, justement. Il dit, prends-le et cours. Alors, c'est bien de voir en arrière, de dire, oh, regardez Abraham, David, Paul, et de dire, ben, moi, je ne suis pas Abraham, David et Paul. Hein. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez qu'Abraham, il s'est dit, hé, hey, je suis Abraham quand même. Vous pensez qu'il s'est dit ça, Abraham? Non. Au temps d'Abraham, Abraham n'était pas connu comme un héros de la foi. Hein. Même Abraham, il devait se dire, je ne vaux pas grand-chose, Seigneur. Hein. Et Moïse, vous croyez qu'il s'est dit, ah, moi je suis le grand Moïse qui va délivrer le peuple? Non. D'abord, il l'a pensé, puis ça s'est mal passé quand il l'a pensé. Et après, quand vous lisez l'Exode, hein, il a dit, mais je ne vois rien, je ne parle pas bien, Seigneur, ne m'envoie pas, ce n'est pas moi qu'il faut envoyer. Mais ils étaient comme vous et moi, quelque part. Qu'est-ce qui fait la différence entre eux et nous? C'est qu'ils sont vraiment entrés dans la course. Par la foi, par la persévérance. Et ils ne se sont pas laissés arrêter par les choses à droite, à gauche. Ils ont tout laissé, tout leur fardeau, tout leur péché, ils sont allés de l'avant. Et chaque fois qu'ils ont repris un péché, ça a été un problème, une chute. Alors ne dites pas, mais moi je suis rien, qui suis-je moi? C'est vrai, vous n'êtes rien, nous ne sommes rien, mais le Seigneur peut faire de grandes choses avec nous, pourvu que nous ayons la foi et la persévérance. Ces témoins d'autrefois nous encouragent, ils disent « Moi j'ai réussi, moi j'ai été jusqu'au bout, j'ai affronté des choses difficiles, j'ai laissé tomber, regardez Moïse qui a laissé tomber les plaisirs de l'Égypte pour aller s'enterrer dans un désert avec un peuple rebelle. Mais il a vu des choses extraordinaires, Moïse, il a vu la mer Rouge s'ouvrir, il a vu la manne tomber tous les matins, l'eau sortir du rocher, les cailles venir miraculeusement, il a vu des choses fantastiques et surtout il a vu la gloire de l'Éternel. Je pense que pour rien au monde, hein, il n'aurait voulu rater ça. Nous aussi, nous pouvons voir des choses extraordinaires, pourvu que nous suivions le témoin, le chemin de Moïse et des autres. Et puis, il y a nos enfants et les suivants qui attendent que nous leur passions le témoin. Si vous arrivez, pour passer le témoin, à reculons, chargés, avec des poids aux pieds, en disant, écoute, je te le donne, mais franchement, ça ne vaut pas la peine. Comment croyez-vous que nos enfants et les suivants vont porter ce témoin? Vous pensez qu'ils vont dire, ah ouais, oh là là! Non, nous avons un témoin précieux, qui est cette foi que le Seigneur nous a transmise. Il est précieux, mais est-ce qu'il est vraiment précieux à nos yeux? Est-ce qu'on le transmet en disant, oh, regarde, l'Évangile? Regarde la parole de Dieu, regarde la vie par l'esprit. Tiens, c'est merveilleux d'avoir ça. Pourquoi il y a tant de jeunes qui laissent tomber la foi? C'est parce que nous ne leur avons peut-être pas bien transmis le témoin. Nous n'avons pas été des témoins qui donnent envie. Et puis, le dernier encouragement dans ce passage, bien sûr, c'est le verset 2. « Ayant les regards sur Jésus. » Pour persévérer, il faut regarder à Jésus-Christ. Parce que si vous regardez aux autres, c'est bien, mais vous dites, lui, il est fort, mais moi, je peux pas. Lui, il y arrive, mais moi, j'y arrive pas. Mais quand vous regardez à Jésus-Christ, c'est lui qui vous donne la persévérance. C'est lui qui vous regonfle le moral, comme on dit. Vous savez, dans le sport, il y a quelque chose de plus important que la force pure et que l'habileté. Est-ce que vous savez ce que c'est qui est plus important que la force pure et l'habileté? L'effort, non. Voilà, on appelle ça comment dans le sport? le mental. Merci. Et tout le monde n'a pas un mental d'acier. On forge le mental, hein, comme on dit. Vous pouvez être un super gars, vraiment habile dans votre sport, costaud, mais vous allez perdre votre compétition, vous allez perdre toutes vos courses si vous n'avez pas le mental. Parce que le mental, c'est ce qui vous fait aller plus loin, plus vite, au bon moment. On voit souvent ça dans les matchs de tennis, vous avez des joueurs plus forts, mais ils finissent par perdre le match au bout de 2 heures, parce qu'ils n'ont pas le mental pour faire face. Dès qu'ils font une faute, ils doutent d'eux-mêmes, ils disent « Ah, ça y est, j'ai fait une faute, c'est fini. » Et ils laissent tout tomber. Et il y a des chrétiens comme ça. « Ah, voilà, là j'ai laissé un péché rentrer dans ma vie, c'est fini, ça ne sert plus à rien de servir le Seigneur. » Non, tu confesses ce péché et tu repars de l'avant. Tu regardes à Jésus-Christ, parce que lui, il t'encourage, il dit « Vas-y, il est ton coach, si on peut dire. » Alors, j'aime pas... forcément réduire le Seigneur à ça parce qu'il est surtout notre Seigneur et notre Sauveur. Mais le mot consolateur hein, dans la Bible, paraclète, ça a cette idée de coach aussi, hein, qui est là derrière vous, qui vous soutient, vous console, vous encourage. Le Saint-Esprit est notre coach, l'Esprit de Christ. Parfois, nous sommes tentés de tout laisser tomber dans la vie chrétienne. Vraiment. Dire, bon, je ne vais plus aller à l'église. D'abord, quelqu'un m'a dit un truc, ça m'a déçu. Puis j'avais prié, puis je n'ai pas été exaucé. Et puis, je vois tellement de choses qui se passent. Bon, je laisse tomber. On peut être tenté aussi de ne plus marcher à contre-courant. Parce qu'il faut reconnaître qu'en tant que chrétien aujourd'hui, on est à contre-courant. Le monde ne va pas dans la direction de l'Évangile et de la Bible, hein. Et donc, de marcher tout le temps contre le courant, au bout d'un moment, vous pouvez dire, moi, j'aimerais me laisser aller. Allez, on se laisse aller vers quoi ? Vers les chutes. Hein. Vers les chutes. Parce que le courant, il vous amène vers les chutes. Non, il faut être comme les saumons, qui remontent, qui remontent, qui remontent, qui sautent des obstacles incroyables hein, pour aller pondre des œufs. Des œufs, pardon. Parce que les saumons, ne sont pas stériles. Hein. Ils ont aussi, hein, ils donnent une semence, une descendance. Et nous aussi, nous sommes appelés à porter du fruit, à avoir une descendance. Et pour ça, il faut remonter le courant, il faut persévérer. Mais des fois, on est tenté de ne pas persévérer. Des fois, on est tenté d'arrêter de lutter contre la tentation. On dit, oh là là, j'ai résisté 1 heure, ça fait 1 heure que je tiens le coup, mais là, j'en ai marre. Seigneur, tu ne peux pas me l'enlever, cette tentation, une fois pour toutes. Et des fois, on se laisse aller. Des fois, on est tenté de ne plus aimer nos frères et sœurs, parce que aimer, ça demande un effort, hein, un sacrifice. On dit, je les ai assez supportés, maintenant, ça suffit. Bien sûr, vous n'avez jamais pensé une chose pareille. Des fois, on est tenté de ne plus aller porter la bonne nouvelle. On se dit, oh, mais Dieu pourvoira bien, il enverra quelqu'un d'autre, ou les gens sont tellement durs, et on se décourage. Alors que, en regardant à Jésus, à ce qu'il a subi, lui, hein, ça regonfle notre foi, ça nous donne un encouragement à persévérer. Quel est l'encouragement qu'on a du Seigneur ? La première chose, c'est que Dieu persévère avec nous. On lit dans Philippiens 1:6, ce verset. Et je vous invite à l'apprendre par cœur, hein, si vous ne le connaissez pas. Philippiens 1, verset 6. Je suis persuadé, écrit l'apôtre Paul par le Saint-Esprit, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Là, il parlait en particulier d'une bonne œuvre que les Philippiens faisaient en apportant de l'argent pour la mission. Mais on peut l'élargir, ce verset, en disant la bonne œuvre de salut que le Seigneur fait en nous, il va l'accomplir, il va persévérer avec nous. Et franchement, je ne sais pas si nous, on persévérerait avec nous-mêmes. Il y a des fois où, si Dieu était humain, uniquement humain comme nous, il dirait, mais c'est fini avec lui, avec elle, hein. Combien de fois il m'a désobéi ? Combien de fois, Quand je lui ai demandé de faire une chose, il a dit non, non, je fais autre chose. Combien de fois je l'ai béni, je lui ai envoyé des encouragements, des bénédictions, et ni merci, ni bonjour. Eh bien, malgré tout ça, le Seigneur persévère avec nous et l'œuvre qu'il a commencée de salut par le Saint-Esprit, il va l'accomplir. Et le jour de la résurrection, nous ressusciterons si nous avons Jésus-Christ dans notre cœur. Ça, c'est merveilleux, cette persévérance de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut persévérer comme ça. Je suis toujours étonné par la persévérance des kinés qui s'occupent des gens en rééducation. Vous avez des personnes qui arrivent là, on se dit, il n'arrivera jamais plus à marcher ou à parler ou à bouger un bras ou une main. Ils arrivent là complètement coincés parce qu'ils ont eu un accident cérébral ou un accident de voiture. Et après des semaines et des semaines, des heures et des heures de souffrance souvent, le kiné arrive à amener la personne à remarcher, à reparler, à rebouger, à refaire du sport des fois. Et je peux vous dire qu'il y a des moments où la personne, même très vite, hein, la personne dit « j'en ai marre, ça fait trop mal, j'ai mal ». À mon petit niveau, n'est-ce pas, lorsque je me suis fait opérer de l'épaule, ça a nécessité une rééducation parce que mon bras est resté bloqué dans une attelle pendant 5 semaines. Donc en 5 semaines, il a beaucoup perdu de sa souplesse. Et quand je bougeais le bras comme ça, j'avais mal, vraiment mal. Et la kiné s'est occupée de moi et alors je lui disais, elle me dit « vous allez mettre votre bras là-haut, là, à l'espalier ». Je dis « non ». Je peux pas, ça. J'y arrive pas. Elle dit, si, si, vous allez y arriver. Et moi, je disais, mais non, c'est trop dur, ça me fait mal à chaque fois. Mais oui, mais vous allez voir. Et elle m'a poussé moralement, mentalement, justement. Elle m'a dit, allez-y. Et petit à petit, j'ai eu mal, mais mon bras a gagné en souplesse. Et il continue de gagner en souplesse. Eh bien, le Saint-Esprit fait mieux que tous les kinés. Hein. Il est là continuellement. Il dit, je veux continuer mon œuvre, on va y arriver, tu vas être comme Christ. C'est ça le but de Dieu. Alors vous, ne vous désespérez pas, parce que Dieu ne désespère pas avec vous. Le deuxième encouragement de Dieu, c'est que sa grâce se renouvelle chaque matin. Dans le livre des Lamentations de Jérémie, au chapitre 3, on trouve ces beaux versets. Lamentations de Jérémie. Chapitre 3, verset 21. Il est tout petit. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, écrit Jérémie, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Sa compassion, ses compassions, ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Vous savez, d'avoir la grâce de Dieu, la compassion de Dieu chaque matin. C'est comme la manne, hein, vraiment, c'est l'image de la manne. Ce n'est pas que Dieu vous dit, bon, je te donne 10 kilos de grâce et de compassion pour toute ta vie. Alors, n'en use pas trop, hein. Non, c'est pas comme ça la vie chrétienne. C'est que Dieu dit, chaque matin, je vais te donner la grâce de vivre pour la journée. Chaque matin, ma compassion sera là avec toi. Chaque matin, mon amour sera avec toi, mon pardon. Chaque matin, on peut recommencer à zéro quasiment, hein, avec le Seigneur. Et ça encourage à persévérer, parce que ce qui est dur dans la persévérance, c'est de voir loin. On dit, oh là là, il me reste encore 32 kilomètres. J'ai déjà mal partout, je ne vais jamais y arriver. Mais la Bible nous appelle à regarder chaque jour. À chaque jour suffit sa peine. Dieu me donne la grâce pour aujourd'hui. Les kilomètres suivants, il me donnera la grâce au moment voulu. Mais ne regardez pas trop loin. Ne dites pas, mais j'arriverai jamais. Non, le Seigneur, lui, s'occupe de chaque jour. Et nous, nous sommes appelés à vivre chaque jour, comme si c'était le dernier, pleinement, avec la grâce de Dieu. Alors, si vous avez du mal à persévérer, si vous êtes tenté de lâcher prise, regardez à Jésus-Christ. Il a montré l'exemple, mais aussi il est là avec vous tous les jours. Chaque jour, pour vous donner la persévérance. Ne vous arrêtez pas au milieu de la course. Pensez à ceux qui viennent après. Pensez à ceux qui sont venus avant, qui ont tenu le coup pour vous. N'arrêtez pas au milieu du ruisseau, mais allez jusqu'au bout, jusqu'à la fin de vos jours que le Seigneur nous donne sur la terre. Peut-être qu'il y a ici quelqu'un qui est un visiteur, ou une visiteuse, et vous n'êtes pas dans la foi au Seigneur Jésus-Christ, vous croyez de loin, mais vous n'avez pas le Seigneur pour sauveur, eh bien j'aimerais vous dire que notre Dieu vous aime, que son amour n'est pas réservé à ses enfants, mais qu'il aime le monde entier, qu'il a tellement aimé le monde même, qu'il a donné son Fils unique pour ce monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous faites partie de ce monde que Dieu aime. Peut-être que vous n'avez jamais réalisé à quel point Dieu vous aime. Sachez que le Seigneur vous tend la main ce matin. Il a envoyé son Fils pour vous sortir du péché. Parce que ce qui vous empêche de vivre librement et pleinement, c'est vos péchés, votre rébellion, votre désobéissance à la loi de Dieu. Mais il est temps aujourd'hui de se repentir, de dire « Seigneur, je reconnais mes fautes, je reconnais que je suis rebelle envers toi, j'aimerais bien que tu me bénisses, mais en même temps j'aimerais bien continuer dans le péché. » Et j'ai compris ce matin qu'on ne peut pas continuer dans le péché et avoir la bénédiction. Il faut choisir. Avec Dieu ou sans Dieu, avec Christ ou sans Christ. Et ce matin, le Seigneur vous appelle à vous tourner vers Christ. Celui qui est mort et ressuscité pour vous, qui a payé de sa vie vos péchés, justement. Il vous aime et il vous appelle, mais il ne peut pas venir à votre place. C'est à vous de faire le pas, de dire, Seigneur, sauve-moi, pardonne-moi, parce que je suis un grand pécheur, une grande pécheresse. Nous allons terminer par un cantique.